RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Nous retrouvons ce matin Yann et Michel dans leurs échanges. Nous avions évoqué la largeur, la hauteur, la profondeur, l'étendue de l'enseignement de la doctrine politique et sociale qui nous avait conduit à cette démonstration brillante de l'existence d'une loi naturelle. Mais je crois qu'il restait encore un certain nombre de questions, parce que si les choses sont aussi belles, pourquoi est-ce que, malgré tout, le monde est parfois un peu triste?
Exactement. J'ai effectivement une série de questions que je posais lors de l'émission précédente. Se pose quand même donc l'interrogation de la non-application de cette doctrine. Parce que, comme tu le laisses supposer, Yann, elle est harmonieuse. Tu parlais même de la supériorité de la civilisation chrétienne. Bon, on reviendra sur ce terme-là. Mais en tant que catholique, suis-je obligé de la connaître? Et si oui, que me conseilles-tu?
Alors, je crois qu'il y a un point qui est important. C'est une doctrine qui est à la portée de tous. C'est pas un code de prescription qui aurait été promulgué à un moment donné, comme on édicte des lois. Éclairée par la foi, elle est un ensemble de principes, de fruits, de l'histoire, des hommes, des sociétés, sans cesse rappelés à l'occasion de situations particulières. Elle renferme des principes qui constituent, j'allais dire, le patrimoine commun de l'humanité, dans lequel chacun peut puiser. Par contre, pour un catholique, elle est obligatoire. Elle est obligatoire dans le sens où il y a une obligation morale de la suivre. Ce serait, à mon avis, un péché ou au moins une sottise de ne pas la suivre. Cela ne veut pas dire que l'Église mette une contrainte physique, je crois qu'on le soulignait précédemment.
L'Église ne nous met pas en prison.
Non, l'Église se borne à nous avertir en nous disant « c'est obligatoire, si vous ne respectez pas, vous courez des dangers pour votre âme et pour votre vie sociale. » Il y a, quand on ne la respecte pas, danger pour les hommes, danger pour la vie commune, pour vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. Donc, c'est un devoir pour un catholique de connaître cette doctrine et de la faire connaître autour de soi.
Non négociable.
C'est non négociable.
Et non, je pense, négociable. Que
si aujourd'hui nous sommes là autour de ces micros, c'est parce que justement, il y a un devoir de faire connaître cette doctrine.
Alors, je reviendrai sur cet aspect non négociable, mais certains de nos auditeurs, sans doute, ne sont pas catholiques. Sont-ils tenus aux mêmes obligations et à quel titre?
Mais, c'est évident que... Je crois que c'est d'abord une question de bon sens. À partir du moment où cette doctrine a pour base la loi naturelle, cette loi naturelle, on l'a vu, elle est acceptable, elle est préhensible, c'est-à-dire que chacun peut y accéder. Et donc, ce serait une ânerie. Ça serait être insensé que de refuser cette doctrine.
Je ne peux la refuser que par idéologie.
À mon avis, oui,
c'est-à-dire que si je fais travailler mon intelligence, je dois naturellement arriver à l'application de cette loi naturelle, de cette doctrine, au même titre que les citations que tu donnais de personnes qui n'ont rien à voir avec l'Église, ou qui citaient, comme Cicéron tout à l'heure, ou les semaines précédentes, qui étaient avant la venue du Christ.
Exactement. Je pense que c'est basé, toute la doctrine est basée sur le réalisme. Je prends un exemple concret. Que dirais-tu d'une personne qui voudrait faire des expériences de chimie en manipulant diverses substances sans aucune étude préalable, sans respecter les règles de la chimie? Complètement fada, comme on dit chez nous.
Oui, sauf que le non-respect de ces règles ont une conséquence immédiate. C'est-à-dire que je me brûle les doigts immédiatement.
Oui.
Donc je ne suis pas idiot. Mais dans le domaine social et politique, le non-respect de ces règles n'a pas une conséquence immédiate.
Ah, la conséquence n'est pas immédiate. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le domaine matériel. Ah, mais la personne d'expérience qui interviendrait pour guider ton imprudence en faisant tes manipulations, bah, tu ne pourrais que la remercier chaleureusement. C'est exactement ce que fait l'Église vis-à-vis des non-croyants. Elle est là, elle leur dit, prenez, c'est ouvert à tous. Prenez notre expérience. Je rappelle, l'Église a plus de 2000 ans d'expérience. Et je reviens là-dessus. C'est une force. J'ai parlé de supériorité, ça a choqué. C'est une supériorité que d'avoir 2000 ans d'expérience par rapport à des organisations qui existent depuis hier et qui nous proposent le remède miracle.
C'est pas une supériorité militaire ni intellectuelle.
Non, bien sûr que non. Il s'agit pas de dire on est meilleur. Simplement, on offre plus. On offre mieux. Et donc, la supériorité dont je parlais, c'est pas une supériorité de la force et d'imposer quelque chose. Non, d'ailleurs, je l'ai dit, l'Église n'impose rien. Elle vous le propose. Elle vous le conseille. Elle vous dit, attention, si jamais vous respectez pas, ça va vous faire mal. Je pense qu'effectivement, nous devons, par sagesse, qu'on soit croyant ou pas, écouter ce que nous dit l'Église.
Avec sagesse, nous allons faire une petite pause musicale et nous retrouverons Yann et Michel dans quelques instants. Nous nous retrouvons sur ce caractère obligatoire. Nous l'avons bien compris, non contraignant, encore que, de cet enseignement, de cette richesse, de cette expérience à partager.
Yann, obligatoire aujourd'hui, ça me fait un petit peu peur. En 2019, j'ai envie d'avoir un petit peu de liberté. Néanmoins, est-ce que je peux être d'accord avec 90% de cet enseignement et me réserver sur le dernier pourcentage? Pour imaginer un peu ma question, je suis derrière l'Église à fond. Je suis un catho. Je suis prêt à appliquer tous ces principes. Mais je ne suis pas complètement d'accord sur la contraception, sur l'avortement, tiens, sur le paiement de l'impôt. Je ne suis pas d'accord sur le paiement de l'impôt, parce que je crois que l'Église l'enseigne. Je ne suis pas d'accord.
Effectivement, nous devons contribuer au fonctionnement des institutions qui ont pour but d'assurer le bien commun de la société. Je rappelle une phrase célèbre de notre maître à tous, même ceux qui ne veulent pas le reconnaître, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette réalité de la nécessité de contribuer au fonctionnement du bien commun, au fonctionnement des institutions qui permettent le bien de tous, est une question de justice, justice générale. Et donc, payer l'impôt est tout à fait normal.
Donc, c'est une belle image de ce que peut être la loi naturelle.
Oui, avec un bémol, parce que à quoi sert l'impôt que nous payons? Et c'est effectivement tout le problème d'une société non chrétienne. Quand je sais, par exemple, que mes impôts, une part importante de mes impôts, va payer des avortements, par exemple, va payer des actions immorales, des soutiens à des organisations, je suis en droit de me poser des questions sur la nécessité de réserver une part de l'impôt.
De la justice, de la justesse. Donc, belle image de la loi naturelle, mais également donc enseignée par les papes dans les encycliques.
Tout à fait. Et cette doctrine, finalement, est très claire. Alors, l'Église ne rentre pas dans les détails. Elle est claire et précise, c'est clair qu'elle est obligatoire parce que, justement, elle est basée sur le bon sens. Et pourquoi? Parce que, pour des catholiques, le non-respect entraîne un danger pour la foi. La foi, c'est quoi? C'est la soumission de l'intelligence à ce qu'enseigne l'Église de manière constante. Et j'insiste à nouveau sur « de manière constante ». Mais c'est également un danger pour les mœurs. À savoir que le non-respect, tu évoquais il y a quelques instants le paiement de l'impôt, il est évident que une société ne peut pas vivre s'il n'y a pas la contribution de chacun à l'effort commun pour assurer le bien commun. Donc, on se rend compte que le non-respect d'un certain nombre de principes entraîne une impossibilité de vie sociale. Je prends un exemple. Quand l'État ne respecte pas le principe de subsidiarité, que dit l'Église? le principe de subsidiarité, c'est-à-dire laisser chacun régler les difficultés, les problèmes, exercer les pouvoirs dans la mesure où il en est capable dans le domaine qui lui incombe. L'Église nous dit, si vous ne le faites pas, un, il y a injustice. Et oui, pourquoi ? On ne reconnaît pas à chacun ce qui lui est dû. C'est une injustice. Et l'Église rajoute, en même temps, c'est troubler l'ordre social. Effectivement, ça crée le désordre. Et j'ai pu vérifier ça dans les entreprises. Quand les grands chefs au-dessus prennent des décisions sur le poste d'un ouvrier sans lui parler du changement d'outillage, par exemple, eh bien l'ouvrier ressent ça comme une injustice profonde. Ça le prend aux tripes et il n'a pas besoin d'être catholique pour ça. Mais en même temps, ça trouble l'ordre social. Parce que du coup, l'ouvrier a tendance à baisser les bras, il ne fait plus son travail, et on est en plein désordre. La productivité s'en ressent, l'économie. Je crois que la démonstration, personne ne peut aller à l'encontre.
Merci pour ce nouvel éclairage. Et j'ai bien compris que l'enseignement de l'Église n'est pas optionnel, au risque de ne pouvoir affronter tous les défis que chaque génération affronte. J'ai compris aussi que cette doctrine n'est donc pas une exclusivité pour les catholiques, car elle se fonde sur le bon sens, dont on ne peut pas s'écarter sans risque. Mais je suis quand même mal à l'aise s'il fallait que je défende une société idéale, qui plus est sous l'autorité de Dieu. Ce sera le thème de notre prochaine émission,